Slate Podcast.
Bonjour, je suis Lucille Bélan. Et chaque semaine, depuis maintenant plus de 3 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique « C'est compliqué ». Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez. Et de la mienne, je vous répondrai.
Bonjour Lucille, je m'appelle Charlène, j'ai 35 ans et voilà, j'ai un souci avec mon conjoint. En fait, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on a une bonne situation professionnelle, on a acheté un appart ensemble, il a 35 ans comme moi et il y a un peu plus d'un an, je lui ai annoncé que j'avais envie de fonder une famille. Au début, je voulais pas être trop pressante, je voulais juste savoir ce qu'il en pensait. Bon, là, ça a été la douche froide parce qu'il m'a dit direct que lui, il n'était pas prêt, qu'il ne se projetait pas. Je lui ai laissé un peu de temps, je ne voulais pas le forcer, je lui en parlais de temps en temps, sans plus. Là, il n'y a pas longtemps, je lui en ai reparlé et il m'a dit que vraiment, il ne se sentait toujours pas prêt et même limite qu'il culpabilisait tellement qu'il envisageait peut-être de me quitter. Bon, moi, je n'ai pas envie de le quitter, je l'aime. Sauf que le problème, c'est que si on attend trop, j'ai peur de plus pouvoir avoir d'enfants naturellement et que après lui me quitte pour fonder une famille avec une femme plus jeune, plus fertile, etc. Si moi je le quitte, j'ai peur de pas retrouver quelqu'un, de pas pouvoir aimer quelqu'un d'autre. On a déjà mis 5 ans à trouver notre équilibre de couple. Moi, dans 5 ans, j'aurai 40 ans. Donc voilà, j'aurai tout perdu, l'amour et la possibilité d'avoir un enfant naturellement. Donc en gros, là, je suis un peu dans l'impasse. J'ai l'impression que j'aurai jamais d'enfant, que je vais finir toute seule. Je quitte pas mon mec parce que je l'aime. Je continue d'espérer, mais bon. En gros, ma question, c'est combien de temps est-ce que je dois lui laisser pour qu'il se décide enfin ? Voilà, j'attends ta réponse avec impatience. Merci beaucoup.
Chère Charlène, je comprends vos inquiétudes. Parce que malgré tout, l'horloge biologique reste une réalité. Mais il faut que vous preniez conscience que 40 ans, ce n'est pas la fin de la vie. C'est-à-dire que si vous recommenciez de zéro à 40 ans, sans mari et sans enfant, même sans travail, vous auriez encore beaucoup de choses à faire dans votre vie et beaucoup d'opportunités. Ce qu'il faut aujourd'hui, puisque vous avez encore un peu de temps, c'est vous demander sincèrement ce dont vous avez envie. Quels sont vos objectifs? Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez vraiment un enfant, au fond de vous? Est-ce que vous le voulez avec cet homme? Ou est-ce que être avec cet homme est votre envie au-delà de tout? Vous pensez à tout ça avec des logiques de productivité. Il vous faut tout, parce qu'aujourd'hui, on nous demande de tout vouloir et de tout obtenir. Il faut le mari, la maison, les enfants, le chien, le scénic, et toutes les autres choses qui décident si on a réussi sa vie ou pas. Mais là, il vous faut une discussion sincère avec votre compagnon. Il doit savoir vraiment ce dont vous avez envie, quand vous aurez décidé ce que c'est, et vous devez vous aussi entendre ce dont il a envie au fond de lui. C'est une discussion honnête et sincère que vous devez avoir, avec de l'empathie et de l'écoute, et pas de peur de ne pas s'exprimer pour ne pas froisser l'autre ou le protéger. Vous avez encore un peu de temps, mais vous pourriez aussi envisager des solutions comme la congélation de vos ovocytes pour en gagner encore un peu plus. C'est une méthode qui est utilisée dans plusieurs pays d'Europe, comme en Espagne, en Belgique ou en Suisse, et en France aussi, dans un cadre très spécifique comme le don d'ovocytes. Pour être plus clair, si vous en donnez, vous pourrez en garder une partie pour vous qui sera disponible jusqu'à vos 43 ans. Ce n'est pas parfait, ça ne le sera jamais, mais ça peut toujours vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça.
Il me semble que je n'ai plus peur. Et il me semble que je suis heureuse.
Bonjour Lucille, Je vous appelle car mon nouveau statut de maman, que j'adore, de jumeau, crée un conflit avec le père et conjoint qui partage ma vie. Certes, ces derniers temps, il était beaucoup sollicité, il y a eu le déménagement qu'il a fait tout seul car ma grossesse ne me permettait pas de l'aider. Et puis, il y a eu la maternité un peu incompétente qui nous a fait beaucoup de frayeurs. Il court aussi beaucoup à droite à gauche pour des imprévus. Et enfin, on n'a plus de rapport depuis mon 7e mois de grossesse. Et ça se poursuit vu que j'ai eu une césarienne. Ça fait 10 jours maintenant que mes bouts de chou sont arrivés dans nos vies. Et pour ma part, la gestion de deux bébés, bien qu'elle est un peu compliquée parfois, reste gérable. Mais elle fait complètement perdre le sang-froid de mon conjoint qui s'énerve parce qu'il ne peut pas dormir, parce que les bébés tardent à faire leur eau ou encore à boire leur biberon. Ça engendre des insultes et du stress envers les bébés. Et je lui en veux de ce comportement qui crée une sorte de cassure entre nous. Quand j'ai appris ma grossesse, tout aurait pu être évité car je lui avais proposé d'y mettre un terme. Il m'avait alors affirmé que ça lui faisait plaisir et que c'est ce qu'il avait toujours voulu. Aujourd'hui, je suis extrêmement déçue de son comportement qui n'est pas du tout celui qu'il m'avait laissé entendre. Pour moi, il n'a pas les épaules pour assumer la tâche de nourrir, changer ou s'occuper de ses enfants. De plus, son agressivité commence vraiment à m'inquiéter. Je commence aussi à être fatiguée de gérer les loulous qui me demandent beaucoup de temps et d'attention. J'ai l'impression qu'en fait, on aurait pu éviter tout ça et que maintenant, j'ai un peu un ultimatum. Je devrais choisir un peu entre mes enfants ou mon conjoint.
Chère Nathalie, si vous me demandez conseil, à moi qui ai eu 3 enfants, assez rapprochés, mais pas des jumeaux, je vous dirais que tout ça n'est pas un ultimatum. Vous n'avez absolument pas besoin de choisir entre vos enfants et votre conjoint. Ce que vous découvrez, en fait, c'est ce moment où tout le monde doit accepter le fait d'être devenu parent. Souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, les femmes ont conscience très vite qu'elles sont mères, dès leur grossesse, parfois dès le début de la grossesse. Il y a ce sentiment de responsabilité qui existe déjà, alors que l'enfant est microscopique. Par contre, souvent également, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, les pères découvrent ce sentiment quand on leur met le bébé dans les bras à la maternité. Et du coup, si psychologiquement vous avez eu le temps de vous préparer, et je crois qu'on ne se prépare jamais au bouleversement que représentent des jumeaux, eh bien lui, il se prend en pleine face tout ce dont il n'a jamais réfléchi, toute la fatigue qu'il n'avait pas prévue, toutes les responsabilités qu'il n'avait pas envisagées avant. Et du coup, c'est très violent. Et dans son processus d'acceptation de la paternité, il vous abandonne un peu. Vous êtes seul maître à bord, vous gérez votre fatigue, les suites de votre grossesse et de votre accouchement, et ces jumeaux qui viennent d'arriver, et qui sont tout petits, et ils vous laissent un petit peu en plan là-dessus. Ça arrive. Je peux vous dire que globalement, dans la vie de parents, ça arrive même très souvent. On ne gère pas tous de la même façon la maladie, par exemple. Les épreuves, les hospitalisations, les accidents même. On n'a pas tous les mêmes réactions face à ça. C'est une façon de redécouvrir son conjoint aussi. Parfois, on est impressionné et parfois, beaucoup moins. Et puis, en fait, on accepte parce que l'autre accepte aussi nos défauts. C'est comme ça. Je crois que devenir parent ensemble, c'est un travail de collaboration. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il aura besoin de vous et vous devrez prendre le contrôle de la vie de famille, des responsabilités. Et puis, il y aura d'autres fois où vous pourrez vous reposer sur lui. Il ne faudrait pas que ce soit trop déséquilibré, bien sûr, mais idéalement, ça se passerait comme ça. Je peux vous dire de toute manière que tout ça va changer. C'est-à-dire que les jumeaux vont grandir, que les besoins vont être différents, que votre fatigue va évoluer, que votre corps va aller mieux. J'ai 3 enfants, dont une grande de 7 ans, et je pense que j'ai jamais eu 2 mois pareils. Tout change tout le temps. On n'a pas le temps de s'habituer, en fait. On n'a pas le temps de se dire qu'il y a un problème ou de se dire que tout est grave, que déjà, les conditions ont changé. Et ça permet de relativiser. C'est un travail d'adaptation permanent, mais ça permet de relativiser les moments où c'est vraiment difficile, parce qu'on sait que ça ne dure pas. Ce que je peux vous dire, en dehors du fait de ne pas vous inquiéter, c'est de ne jamais hésiter à demander de l'aide. Essayez de trouver où est le centre de PMI pas loin de chez vous. Demandez de l'aide à votre famille, à vos amis. Demandez-leur de venir un quart d'heure s'occuper des jumeaux pour que vous puissiez prendre une douche, sortir 5 minutes, aller au cinéma, faire un petit peu votre vie dans votre quotidien. Si votre conjoint ne peut pas le faire actuellement, eh bien, il y a d'autres personnes qui, à mon avis, seraient assez contentes de pouvoir vous aider. Donc il ne faut pas hésiter. Tout ne repose pas sur vos épaules. Vous en avez l'impression, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, ce qu'il faudrait surtout éviter, c'est que vous craquiez. Que physiquement, vous ne soyez plus capable. Vos jumeaux ont besoin de vous, votre conjoint ont besoin de vous. Et vous avez besoin de vous aussi. Alors n'hésitez pas, demandez de l'aide.
Je regrette de partir. Je voudrais être avec vous.
Vous y êtes ?
Bonjour Lucille, je m'appelle Marion. Et en fait, je t'appelle parce qu'un soir, on était installés pour dîner avec des amis. Et il y en a un qui s'est un peu jeté à l'eau. Il y avait un silence qui venait de s'installer et il a balancé. Mais au fait, comment ça se fait que vous ne vivez pas ensemble avec ton mec ? Mon compagnon, qui était un peu offusqué par le manque de tact, il s'est terré dans le silence. Et moi, j'étais soudainement en nage, j'ai essayé de baragouiner une excuse très bancale et j'ai essayé de passer à autre chose. Mais en fait, c'est loin d'être la seule question du genre qui nous a été jetée à la figure. C'était la plus violente, mais c'était loin d'être la seule. Depuis qu'on est installé à Paris, en fait, on a chacun cherché notre propre studio. Et en fait, cette question nous a été posée peut-être 56 fois. Ça pourrait passer pour de la simple curiosité, mais en fait, derrière la question, je ne peux pas m'empêcher d'entendre qu'est-ce qui ne va pas entre vous. Tout notre entourage est un peu démangé par la question, que ce soit les amis, les collègues ou même la famille. Si ça me dérange autant, c'est parce que je n'ai pas de réponse. C'est comme ça, ça nous plaît comme ça, et on vivra ensemble quand on aura envie. Quand ? J'en ai aucune idée. Avec la récurrence de cette question, j'ai l'impression d'aller à l'encontre de toute logique. C'est la logique que notre entourage voudrait pour nous. À 26 et 27 ans, il faudrait absolument qu'on vive ensemble. Parce qu'on est en couple depuis 3 ou 4 ans, parce que ça va bien entre nous, et aussi parce que c'est moins cher à Paris. Tous les deux, en fait, on est plutôt des solitaires. On adore être ensemble, mais on adore aussi être tout seul. On se voit après le boulot, on dîne ensemble, je dors chez lui, il dort chez moi. On se fait dessiner des expos, des sorties, et des week-ends tout à fait banals. On mange, on dort, on regarde la télé. Est-ce qu'il faut vraiment partager le quotidien, voir la tête de l'autre quand on n'a pas trop envie, mais c'est comme ça ? Est-ce qu'il faut s'envoyer des textos pour savoir qui passe acheter la mozza en rentrant ? Qui fait la lessive du coup pendant que l'autre zone sur Facebook ? Partager davantage les moments fun que les contraintes du quotidien ? Est-ce que ça fait nous juste des potes, pas un couple ? Les vrais couples, eux, ils endurent le quotidien. Et nous, on fait quoi ? On batifole ? Je finis par me poser la question. Merci pour ton oreille attentive, Lucille.
Cher Marion, personnellement, je n'ai jamais habité toute seule. Et je le regrette souvent. Alors je trouve que vous avez un peu de chance de pouvoir profiter d'un espace à vous et d'avoir à côté une vie amoureuse épanouie. Votre histoire me rappelle une anecdote un peu amusante. Je zappais à la télé un après-midi et je suis tombée sur un documentaire sur la vie de Peter Falk, l'acteur qui jouait Columbo à la télé. Je me souviens très bien que le journaliste avait demandé à sa femme quel était le secret de la longévité de leur couple et que tout naturellement, dans son espèce d'immense château, elle avait répondu que le seul secret, c'était d'avoir deux salles de bain. Au fond, si j'y réfléchis, je vois pas ce qui oblige les gens aujourd'hui, sans enfants en particulier, à vouloir à tout prix habiter ensemble comme une étape. Au sixième mois, à la première année, quand on est un couple installé, il faut obligatoirement habiter ensemble. Et pour moi, comme il n'y a rien qui explique cette loi, je me dis en toute logique que c'est du conformisme. C'est-à-dire que si on se dit que si on ne le fait pas, eh bien il y a un problème. Si l'autre ne propose pas d'habiter avec vous à un moment, c'est qu'il n'a pas envie de s'engager. Alors que le secret de l'engagement, c'est bien de discuter, d'avoir une envie commune et de la réaliser ensemble. Et si votre envie commune, c'est d'avoir votre propre lit et votre propre salle de bain pour avoir toujours le choix de dormir avec lui ou pas, ce qui ne veut pas dire que vous ne dormez jamais avec lui, eh bien je trouve ça très sain. C'est une question de moyens en fait. Si vous en avez les moyens financiers, je vois vraiment pas ce qui vous en empêche. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas proche de votre conjoint et vous le savez très bien. Ça veut juste dire que vous avez réfléchi un tout petit peu plus que les autres à ce dont vous aviez vraiment envie. C'est très courageux de votre part, comme c'est courageux de le défendre au quotidien. Parce que ce choix, on est bien d'accord, comme tous les modes de vie alternatifs, et je ne vous juge pas, je fais juste des guillemets avec mes doigts, eh bien ces modes de vie alternatifs, il faut les vivre au quotidien, mais il faut aussi les défendre. Et ça se fait à coups de pédagogie. Ça se fait à ces soirées où on vous pose 300 fois la question et où 300 fois vous répondez. Parfois un peu agacé, parfois avec humour, parfois avec vos mots à vous et vos sentiments. Mais le fait que vous soyez là pour en parler, et que vous le défendiez, et que ces gens voient qu'avec votre compagnon, vous avez une relation équilibrée, eh bien, c'est la preuve que quelque chose se passe de différent et qu'il est possible de l'envisager. En fait, ça va pas vous consoler, mais parce que vous faites, vous êtes un peu un étendard d'un mode de vie. Et surtout de la capacité de remise en cause de tous les modes de vie qui existent. On se dit que le couple, c'est simple. On se met ensemble au début, et puis après, un jour, on habite ensemble, et puis après, on commence à réfléchir à faire un enfant ensemble, pour certains, après le mariage. Et puis en fait, bah, c'est pas si simple. Il y a des gens qui vont avoir envie d'avoir des enfants et effectivement de pas se marier. Et d'autres qui vont avoir envie de se marier sans habiter avec l'autre. Ou de ne jamais avoir d'enfants ensemble. Tout est possible. Et ce n'est pas la preuve qu'on est bizarre ou qu'on a un problème, mais juste qu'on est différent et unique. Et c'est très bien comme ça.
Et c'est vous qui êtes là.
Et alors, pourquoi suis-je là ?
C'était C'est compliqué le podcast. Comme Marion, Charlène et Nathalie, n'hésitez pas à me laisser un message sur la boîte vocale de ce programme. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, parce que c'est un programme qui aborde de multiples facettes de l'érosion du couple et de questionnements sur l'avenir professionnel ou personnel, je vous conseille sans réserve la série Easy de Jo Swanberg, disponible sur Netflix. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, laissez-moi donc un message vocal au 07 61 76 74 01. Vous pouvez rajouter dièse 31 dièse au début de ce numéro pour rester anonyme. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire restent toujours d'actualité. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt.